C'est le printemps, inexorablement les saisons et le temps passent, indépendamment de la folie des hommes. Ce soir, on va revenir sur des origines naturelles et d'autres moins qui nous font quelquefois vivre en paix. Comme quoi, il est bon de prendre notre histoire. Bienvenue dans CMA. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans CMA, c'était mieux après, l'émission qui revient sur les origines des choses. Et pour nous aider, on a une équipe de chroniqueurs originaux pour des sujets qui ne le sont pas moins. Voici le sommaire de la première partie de CMA. Alors, quand on parle de guerre avec elle, c'est celle des boutons. Bonsoir Caro.
Bonsoir.
De quoi nous parles-tu ce soir ?
Eh bien oui, quelles sont les origines du boutonnage ? Surtout, pourquoi est-il inversé selon le genre ?
Tu travailles chez Kergras, toi, non ? J'ai l'impression, au niveau du jeu...
Sans un truc, c'est le printemps.
Oh, ouais, d'accord. Ok, ouais, ça surjoue un petit peu, ouais. Il a toujours le sourire, sauf quand il ne l'a pas. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Quel est ton sujet ?
Je vous parlerai du sourire le plus vieux du monde ce soir.
Parle de moi. Elle est sortie de sa coquille pour être chroniqueuse dans CMA. Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
On parle de quoi ?
Alors, on en fait tout un plat, à la coque, à la neige, au chocolat et même aux pierres précieuses. On va parler des œufs.
Oh, tout un programme. Et ce soir, c'est un événement. À la demande générale, on retrouve le sauce au chaud avec une version CMA. Bonsoir Sonia. Alors, bonsoir. Que faudra-t-il deviner alors ?
Eh bien, ce soir, il va s'agir de deviner des expressions de la langue française. Voilà, d'où viennent-elles ? Qui sont-elles ?
Avec la méthode sauce au chaud, on vous expliquera tout à l'heure.
Avec la méthode sauce au chaud, je vous explique tout à l'heure.
Ok, une partie bien remplie donc, avec bien sûr un Graal qui répond à vos questions. Ce soir, vous nous avez demandé pourquoi la bouteille de Cointreau est-elle carrée ? Eh bien, on aura la réponse et vous verrez qu'elle est surprenante. Restez bien avec nous pour la suite puisqu'il y aura aussi du sport. On parlera de sport olympique, on parlera d'univers et de médicaments. Vous êtes sur Radio G 101.5 FM à Angers ou Spotify partout dans le monde. C'est CMA qui commence. Certains les percent, d'autres les enfilent. Oh. Utile ou juste pour faire genre, on ouvre le sujet du boutonnage avec Caroline.
Je préfère ceux qui les enfilent.
C'est l'amour au bouton, non, au bouton de culotte.
C'est old school.
Ah ouais, très.
C'est mignon. Eh bien oui, droit, évasé, court ou long, simple ou double, avec lui tout est permis, pourvu que les épaules ne soient pas disproportionnées. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le béaba de toutes les couturières et les stylistes, ça, messieurs, dames.
Quel rapport avec le bouton et les épaules ?
Ben, c'est le bouton, le boutonnage qui est droit, évasé, court ou long.
Ah, d'accord.
Je vais la refaire, si tu veux.
Non, non, vas-y, vas-y, vas-y.
Alors... Non, mais je dois dire, comme Bruno, que je me demandais le rapport avec les épaules.
Ben, c'est parce que...
Oups, pardon.
Ça commence bien.
En fait, le thème, c'est le boutonnage, enfin.
D'accord.
Et que le boutonnage soit droit, évasé, court ou long, pourvu que les épaules ne soient pas disproportionnées. C'est le béaba des couturiers, en fait. C'est un petit peu leur...
Parce que le fait de fermer le bouton ou pas, c'est, ça fait bien la carrure. Et donc, du coup, ça joue sur les épaules.
C'est ça.
D'accord, j'ai compris.
Ça. Merci de... Faire une version plus explicite.
J'ai fait carreau en troisième langue.
Alors, pourquoi le boutonnage est-il inversé ? Eh bien, c'est une question toute bête. C'est quelque chose auquel on ne prête pas forcément attention de nos jours, mais qui a bel et bien perduré. Donc, reprenons depuis le début. Le boutonnage, c'est à droite pour les hommes, c'est-à-dire manteau, gilet, chemise avec les boutons cousus du côté droit de la personne qui le porte, et à gauche pour les femmes, n'est-ce pas ?
Je savais pas ça. Je découvre, merci Caro. Bah, j'ai jamais fait attention.
Ah ouais,
c'est ça, on fait pas attention. Et
les garçons,
montrez-moi vos chemises.
Les boutons, ils sont au milieu.
Florian, ne sois pas désagréable. Alors, c'est une coutume symétrique qui remonterait pour ces messieurs au Moyen-Âge. En effet, les chevaliers, pour la plupart, étaient droitiers, comme la majorité de la population de l'époque. Ils portaient donc leur épée à gauche pour mieux la dégainer. Avec une ouverture vers la gauche, ils risquaient de coincer le manche. Aucun risque avec une chemise s'ouvrant vers la droite.
D'accord. Mais alors pour les filles, pourquoi ils ont changé alors ?
Pour les femmes, l'explication principale est que les femmes d'un haut rang se faisaient habiller par des servantes. Ces dernières étaient principalement droitières et elles trouvaient plus commode de manipuler les boutons placés à leur droite à elles et donc à la gauche de celles qui portaient.
Tout le monde était droitier ou droitier ?
Hein ? Tout le monde était droitier ?
La majorité de la population.
On les empêchait. D'accord, proche du micro.
Non, alors il restait quand même quelques gauchers, Et notamment, les gauchers étaient très appréciés dans l'armée. Parce qu'ils étaient un petit peu plus oui, voilà. Ils étaient plus
comme au tennis.
Habiles pour les duels. Voilà. Bref, alors il y avait quelques gauchers, mais bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas vraiment la cote. Et c'est un autre débat.
Mmh.
Enfin, il y a deux autres hypothèses. Non, d'ailleurs, on ne dit pas hypothèses. On dit il y a deux autres hypothèses. Voilà. La première viendrait du milieu équestre, comme beaucoup de choses dans la mode actuelle, au final. Les femmes, à l'époque, montaient en Amazone, donc côté gauche du cheval. Les boutonnières placées ainsi permettaient que le vent ne s'engouffre pas dans le pan du vêtement.
Oh là là, c'est voilà. Super bien réfléchi.
Ouais,
hein.
C'est calculé. Non
enfin, la dernière hypothèse, elle concerne tous les milieux de l'époque. Les mamans qui allaitaient leur bébé étant plus droitières, elles portaient donc leur bébé à gauche pour que la main droite reste libre pour les autres tâches et surtout pour les autres enfants. Donc, il était plus facile pour elles de dégrafer leur corsage ou leur chemise si les boutons étaient à gauche. Il était plus facile de décacher le sein au niveau pour bébé. Voilà. Donc, à la fin du 19-20e, les hommes n'utilisent évidemment plus d'épée et les femmes d'un certain milieu ont des nourrices. Pourtant, l'association droite pour les hommes et gauche pour les femmes est restée.
Ok.
Eh ben, je ferai attention maintenant.
Et maintenant, ben, on a appris plein de choses.
Ah ouais, merci Caro.
De rien.
Grâce à toi ce soir.
Ouais, tout à fait.
Vous allez tous regarder vos chemises.
Différemment. Dans un instant, on va sourire et mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais avant, c'est l'heure du Graal. Yann nous demande pourquoi la bouteille de Cointreau est carrée. Voici la réponse du Graal.
Question de Yann Danger. Pourquoi la bouteille de Cointreau est-elle carrée ?
Excellente question. Et la réponse n'est pas si évidente. Mais n'y allons pas par quatre chemins et répondons. C'est Édouard Cointreau qui le dit lui-même, un bon produit n'est rien sans une forte identité visuelle. Il a appliqué son adage à sa liqueur d'orange. C'est donc pour se démarquer de la concurrence qu'il a décidé de ne pas respecter la forme des bouteilles classiques. Il s'est alors inspiré des bouteilles de parfum, aux formes étudiées qui racontent une histoire. Et l'histoire du Cointreau, c'est d'abord ses quatre ingrédients. Extrait d'écorce d'orange, alcool, eau et sucre. Quatre produits, quatre faces, logique. Et pour en rajouter une couche sur le nombre de facettes de sa bouteille, Édouard Cointreau a précisé que son ambition était d'emmener sa boisson aux quatre coins du monde. Autre détail de la bouteille, elle est de couleur ambrée alors que le liquide est cristallin. Ça peut surprendre et c'est fait pour. Le tout à boire, bien sûr, avec modération. C'était le Graal à retrouver en vidéo sur Instagram et Facebook avec les comptes Question Graal. Alors CMA se poursuit avec plein d'émotions et pour partager ces émotions dans la vie, on utilise le visage, les yeux et la bouche. C'est vrai aussi en dessin. Voici la chronique de Mathias, un icône de l'émission.
Je ressens comme une tension,
la couleur d'une tentation.
Hier le temps s'est arrêté,
je pense que c'est ça la passion.
Emoji cœur, emoji fleur, emoji pleure.
Cette fois-ci ce sont des larmes de bonheur.
Emoji cœur.
Oui. Alors ce soir je vais vous parler du sourire le plus vieux de l'histoire. Aujourd'hui tout le monde utilise les emojis, autrefois appelés les smileys. Et du coup j'ai voulu savoir d'où ça venait. Il y a très peu de temps, en 2017, une équipe d'archéologues, après 7 ans de recherche, a trouvé des fragments d'un vase proche de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et en reconstituant les morceaux, ils se sont rendus compte que ça formait en fait un visage. Ça formait deux points et un sourire. Vraiment comme un emoji qu'on pourrait former aujourd'hui. Quoi.
D'accord.
Donc ce vase date de 1700 avant Jésus-Christ.
Et à côté, c'était marqué MDR, non ?
Oui, il y avait un XD.
LOL.
XD. XD PTDR. Donc, non, mais c'est surprenant parce qu'il y a très peu de temps, on n'avait pas connaissance et ce n'était pas la référence de ma chronique d'ailleurs. Mmh. Et ils ont trouvé ça très récemment. Donc, on pourrait considérer cette information comme l'origine des smileys, mais ce n'est pas elle qui explique nos emojis d'aujourd'hui. C'est en 1972, il y a 50 ans, que Franklin Loufrani a créé les smileys pour annoncer les bonnes nouvelles dans François, raconte son fils Nicolas Loufrani. Son idée, c'était de mettre en avant les nouvelles amusantes ou positives, avec un petit sourire, de manière à ce qu'on voit la vie du bon côté, en lisant les choses positives dès le matin.
D'accord.
Donc immédiatement, la création rencontre un certain succès et sa présence se multiplie. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui sont sur Angers, on voit dans la vitrine des Galeries Lafayette des emojis. Oui. Ils font,
ça revient aussi.
Oui. Ils font justement honneur aux 50 ans de...
Du coup, longtemps après, Télérama, ils ont fait pareil pour les films, pour dire s'ils étaient bien ou pas bien, c'était des emojis aussi.
C'est resté, en fait, cette référence. Donc, mais alors après, dans les années 90, le smiley s'essouffle un peu. C'est là que Nicolas Loufrani, son fils, rentre dans le jeu, et en 92, il rejoint son père et donne son son nom au smiley. Il dessine également le premier smiley en 3D, déjà rond et toujours jaune, mais là du coup il fait vraiment une version 3D.
Il y a une petite ombre dessus et tout.
Oui, voilà, un peu ce qu'on retrouvait sur MSN.
Ouais, MSN, voilà. Vous connaissez MSN, dis-toi en MSN, ça te dit quelque chose. Voilà, m'étonnerait.
Donc surtout, il a créé un catalogue complet de smileys avec des vêtements et des tenues adaptées à chaque profession ou chaque sport. Une philosophie qui rappelle déjà les emojis que l'on trouve aujourd'hui sur les smartphones. Pourtant, il y a bien une différence entre les smileys et les emojis. Quand des emojis dessinent des animaux, ce sont des reproductions fidèles d'animaux. Alors que les smileys, les animaux en smileys, ce sont que des smileys. C'est-à-dire qu'on a la tête et la bouche d'un smiley en forme d'animaux. C'est pas un animal dans le sens réaliste.
D'accord. Ils sont mis comme des humains, en fait. On a les expressions...
Oui, c'est vraiment un rond, en fait. C'est vraiment un rond, figurine un peu...
C'est stylisé. C'est beaucoup
plus
stylisé.
Voilà, avec des oreilles de chat pour faire un chat.
D'accord.
Et voilà.
Mais c'est pas un chat, en fait.
Donc, alors, en aparté, un chercheur en informatique du nom de Scott Fellman, qui, en septembre 1982, crée lui aussi un smiley, mis à part. Lors d'une discussion avec des collègues sur un forum de l'université, il propose en fait une suite de caractères à lire de côté. Donc ça, je pense
que
beaucoup
l'ont fait. Ah oui, c'est
vrai,
à 90 degrés, il fallait retourner les deux points voilà. Tirés, fermer la parenthèse, d'accord.
Pour marquer les conversations humoristiques avec deux points tirés, petite parenthèse fermée, pour faire un petit sourire. Et les conversations plus sérieuses avec, au contraire, la parenthèse ouverte pour,
vers le bas.
Voilà, pour faire smiley pas content, quoi. Donc, et ajoute que pour certaines conversations, du coup, il formait d'autres... d'autres smileys plus adaptés. Au cours des années 90, ils prendront le nom d'émoticônes, un nom valise regroupant les mots émotion et icône.
Ah, émoticônes, oh là là, d'accord.
Après, vous connaissez la suite avec l'arrivée des smartphones. L'usage des emojis explose, d'abord en 2007 avec la sortie du premier iPhone, où là vraiment c'était les emojis étaient intégrés au Japon, c'était le truc foufou. Et puis surtout à partir de 2011 où Apple intègre les emojis sur tous les appareils, et peu de temps après, les autres constructeurs ont enfin de même, et plus de 1800 emojis différents existent.
D'accord. Donc en fait, on a appris que les emojis étaient largement avant l'invention du smartphone et les chats, etc.
Ouais.
C'était juste une adaptation. T'en as des emojis sympas ?
J'ai découvert que cette année, parce que tous les ans, il y a des nouveaux emojis qui sortent. Et donc cette année, j'ai découvert l'homme enceinte. Alors, j'ai cru que c'était un homme enceinte.
Ouais.
Ce n'est pas un homme enceinte, c'est en fait une personne non genrée enceinte.
Oui, d'accord. Techniquement, ok.
Voilà. Ça m'a un peu déstabilisé, je me suis dit, bon, d'accord.
Pourquoi pas ?
Alors, il y en avait un qui était mignon, c'était les deux mains qui formaient un cœur.
Ah, c'est nouveau ?
Oui, c'est nouveau. D'accord. Les deux mains qui forment un cœur, c'était Kiki.
Il y a les Kiki aussi ? C'était Kiki.
D'accord.
Ça, c'est l'aubergine. Hein. C'est l'aubergine, le Kiki. Hein.
La loutre aussi. Une petite loutre sur le dos.
Ah, il y a une loutre sur le dos ?
J'ai pas vu la loutre.
Oui, d'accord. C'est mignon.
Okay, j'ai vu une huître aussi, alors ça j'ai pas compris dans quel contexte on peut placer une huître.
Ah ouais, une huître.
Mais alors du coup je pense que ça va être mon défi de l'année, c'est placer...
Mais le dimanche matin quand tu veux te faire, tu vois, un petit plat d'huître.
Non. Au mieux une petite moule, hein, si tu veux. Bah bon, moi je sais pas, mais faites ce que vous voulez le dimanche matin.
Mais dimanche midi, je veux dire.
Ah oui, d'accord.
Oui, bah oui. Oui,
prendre des petites huîtres.
Je vais chercher le contexte où je vais placer cet emoji effectivement durant l'année.
Qui veut faire un petit déj avec Soso? Oh putain, café huître.
Hein, Noël pour préparer le repas de Noël.
Tu mets des huîtres.
Oui, voilà, c'est ça, Noël. J'aurais dû prendre Noël.
En même temps,
fallait quand même le placer, l'emoji huître. Oui. C'est pas le truc le plus courant.
Bon, t'as l'emoji caca aussi. Hein.
Oui, mais ça, je peux le placer en plein de contextes.
Ah, d'accord.
Vois,
okay.
Mais,
ouais. L'homme enceinte, enfin, le transgenre enceinte, c'est pareil.
C'est faut le placer.
Et il y en a un que j'ai trouvé très intéressant, c'était les mains de couleurs différentes qui se servent aussi. On avait les mains de plusieurs couleurs.
Ah oui, la peau, la couleur de peau est différente.
Mais là, par contre, c'est vraiment deux couleurs de peau différentes qui se servent la main.
Je crois qu'il y a même presque
beau,
tous
ça.
Les emojis, je pense qu'ils ont aussi des couleurs de peau différentes.
Toutes les variantes, ouais. Donc ça, c'était cool.
Donc ça, c'est bien. Eh bien, c'est parfait. Je te remercie, Mathias. On a appris plein de choses ce soir. Restez bien avec nous, car dans 5 minutes, on va retrouver le mythique Soso Show, version CMA. Mais juste avant, on ne va pas parler de nous, mais d'eux. En ce moment, on marche dessus avec l'actualité du monde. Eh bien, on parle de leur origine ce soir avec Sandra.
Quand je vois tes œufs, je suis amoureux. Je suis fou de joie. Quand je vois tes œufs, je suis amoureux. Brouillé ou mimosa, je suis moins fou de joie.
Voilà.
C'est qui chante? Voilà.
Je ne sais pas. J'apprends des nouvelles chansons tout le temps, chaque fois ici.
Je sais pas si c'est bien, mais effectivement, on en découvre.
J'espère qu'à la fin de l'année, là-bas, j'aurai toutes les chansons en best-of.
Voilà,
en
c'est ça. On va faire un CD des jingles. Ouais. Le tien est sympa, ça aussi, tout à l'heure,
ouais,
Cisco.
Un spécial jingle de CMA.
Oui, ouais, c'est ça. Ça ah oui, d'accord. C'est noté.
Donc, les œufs, comme je disais, on en fait tout un plat. Donc, à la coque, à la dèche, au chocolat et même aux pierres précieuses. Une étrange question demeure. Qui de l'œuf ou de la poule est né en premier? Alors, je vous donne la réponse tout de suite pour pas qu'on s'éternise. La réponse serait l'œuf qui date de 190 millions d'années et qui viendrait à la base d'une espèce d'oiseau dinosaure. Et donc, la poule serait venue après, on va dire, par descendance, on va dire.
Ah.
Voilà.
Eh ben oui, forcément.
Voilà.
Oh, on se couchera moins bête.
Oui, tout à fait. Mais l'œuf en lui-même existait avant, puisque les lézards faisaient des œufs également. Donc,
Et oui.
Donc, les œufs ont du succès et prennent effectivement toute leur importance en avril à Pâques. Donc, pourquoi? L'œuf est un symbole de vie, de renouveau. C'est l'origine du monde. De l'œuf éclot un nouvel être. Il symbolise la résurrection, c'est ça, du Christ chez les chrétiens et la traversée de la mer Rouge par Moïse chez les juifs. Il représente également le retour du printemps. Les Romains, les Égyptiens, s'offraient déjà des œufs peints à la main et décorés comme un symbole de porte-bonheur. Au IXe siècle, l'Église catholique interdit la consommation d'œufs pendant le carême, c'est-à-dire il fallait pas manger d'œufs pendant 40 jours avant Pâques.
Donc du coup, à Pâques, on se lâchait, quoi. C'est pour ça qu'il y a des œufs à Pâques.
Bah oui, parce que 40 jours avant Pâques, quand même, ça fait un mois et demi.
Sans omelette.
Par conséquent, il y avait un surplus d'œufs périmés, puisqu'on ne peut pas empêcher la poule de pondre, effectivement. Donc, l'idée, en fait, c'est de les peindre à ce moment-là, et du coup, de les offrir.
Ouais.
Voilà. Enfin, c'est de là qu'est venue l'idée de peindre des œufs, en fait. D'accord. De les décorer. Ensuite, au XIXe siècle, les œufs en chocolat deviennent populaires puisque la poudre de cacao devient plus accessible, forcément.
Et pourquoi? Pourquoi œufs de chocolat? C'est ça, c'est la question.
Pourquoi les œufs
Pourquoi faire ça en œufs en chocolat? Je ne sais pas.
Ouais, j'ai pas trop. Ouais.
Non, je me posais la question. Excusez-moi. Ouais,
emoji huître.
Emoji caca. Voilà.
Le roi Louis XIV offrait des œufs à la feuille d'or à ses courtisans. Donc c'est une gamme au-dessus, on va dire.
Ah oui, ça c'est sûr.
Les paysans payaient leurs impôts fonciers en donnant des œufs au printemps. Et on ne se contente pas de se les offrir, puisqu'il faut aussi les trouver, ces œufs. Donc le rituel est de cacher les œufs. Ceci vient du fait que Pâques fut d'abord une fête païenne, et donc les chrétiens s'offraient des œufs en cachette. Donc la tradition étant de les cacher dans le jardin pour les enfants, mais encore ne faut-il pas se faire poser un lapin.
Si tu me fais de la concurrence, ça va pas le faire, attention hein.
J'ai essayé de les placer, non, mais c'est bien, c'était pas être évident. En effet, c'est le lapin qui distribue les œufs, en fait. Donc, la légende vient d'un fait grec où offrir un lièvre, autrefois, c'était déclarer ses sentiments. Et par association d'idées, la lapine qui est très féconde, on va dire, donc le lapin, en fait, a pour rôle de distribuer les œufs.
D'accord.
Vous avez compris ou pas tout à fait?
D'accord.
Oui, ça, oui.
Mais poser un lapin, du coup, c'est un peu différent, quoi. Le lapin, il a tous les sens. C'est-à-dire, un lièvre, c'est déclarer son amour, et poser un lapin, c'est ne pas le faire, quoi.
Ouais, en fait.
Il y a toutes les significations par rapport au lapin.
L'idée, c'est que je voulais dire, en fait, on cache les œufs dans le jardin, mais encore faut-il pas poser un lapin, dans le sens où c'est le lapin qui distribue les œufs. Ouais. Donc, s'il n'est pas là, on le pose.
Ok.
Il n'y a pas de Pâques.
Moi, j'avais compris, Sandra.
C'est bien. Merci, Tim. Merci. C'est bien.
D'accord. Il y a des boutons sur les œufs.
Donc, souvent, en fait, c'est un lapin. Donc, en Allemagne, c'est un lapin blanc invisible. Aux États-Unis, c'est un lièvre qui distribue les œufs. En Suisse, c'est un coucou. Oh.
Nous, c'est des cloches.
Attends. Non, la petite blague arrive.
Ah, pardon.
D'ailleurs... N'y aurait-il pas quelque chose qui cloche selon vous? Bravo.
Faut que je trouve un jingle de... Voilà.
Ouais. Bah oui, où sont passées les cloches? Donc chez le chrétien, il est interdit de faire sonner les cloches entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques. La légende dit que les cloches vont se faire bénir par le pape et reviennent dimanche matin semer le jardin d'une pluie d'œufs en compagnie des lapins.
Beau, ils ont fumé quoi là?
C'est comme ça. Textes,
ah bon,
ça arrive de Rome et tout. Oui,
c'est
oui,
ça.
Bien sûr. D'accord. Un peu de respect.
Donc tout le monde connaît la fable de la poule aux œufs d'or, vous savez, la fable de la fontaine. Mais je vous dirais qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Aussi.
Connaissez-vous les œufs de Fabergé ?
Oui.
Ah oui.
Donc les œufs les plus, c'est les œufs les plus luxueux du monde. Donc c'est Alexandre III qui commanda le premier œuf de Fabergé à son créateur bijoutier Pierre-Carl Fabergé, un joaillier russe. Il voulait l'offrir à sa femme pour Pâques et sa première création fut l'œuf à la poule, qui représente un œuf blanc en fait à l'extérieur. Ensuite, on ouvre l'œuf blanc et à l'intérieur c'est jaune. Une fois le jaune ouvert, on découvre une poule rouge assise sur un nid doré. On ouvre le nid et dedans il y a une réplique de la couronne impériale avec un petit pendentif rouge rubis.
Voilà, c'est romantique.
Et ça évoque la question, pareil, qui est venue en premier, la poule ou l'œuf, en fait. Et de 1885 à 1917, le joaillier créa 71 œufs comme ça impériaux de Fabergé, d'une valeur. Ça coûte 22 millions d'euros, d'accord.
Okay.
Parce que c'est constitué de pierres précieuses, d'or, etc. Et ces œufs sont comparables, on va dire, au système des poupées russes, c'est-à-dire il y a une surprise à chaque ouverture. Il y en a 10 qui ont disparu de la circulation. Et 14 qui sont au musée de Fabergé à Saint-Pétersbourg.
Il faut les rendre maintenant.
Ils restent dans les collections privées. Et pour la petite anecdote, il y a un œuf de 24 millions d'euros qui a été retrouvé chez un ferrailleur américain qui l'avait acheté 8000 pour revendre l'or avant de s'apercevoir effectivement de sa vraie valeur.
Ah bah heureusement qu'il ne l'a pas détruit, oui.
Et l'œuf de Fabergé fit sa première apparition au cinéma dans le James Bond de Octopussy en 1983. Voilà. Donc je vous laisse à vos occupations, moi je vais aller chercher mon œuf Kinder.
Ah, allez, placez le Kinder, hein. Bravo.
Voilà.
Ok, bah oui, ça sera bientôt Pâques, c'est vrai. Merci Sandra.
Bah, défaut de Fabergé.
Eh oui. Bah. Avant la deuxième partie de CMA, dans laquelle on parlera de l'origine des Jeux Olympiques, mais aussi d'espace et de plantes, on retrouve une chronique culte de feu l'émission Tendance à me plaire de Raphaël, à qui on passe d'ailleurs le bonjour. Alors on a reçu plein de courriers, hein. C'est une folie pour le retour de ce jeu. Alors le courrier c'était évidemment des cartes postales à l'adresse de la SFP, hein, puisque c'est les fans de Soso, hein. Évidemment. Attention, voici le moment du Soso Show.
C'est chaud, c'est chaud, c'est le Soso Show.
Alors c'était son jingle à l'époque, en 1720, quand elle faisait l'émission dans Tendance à me plaire.
Mais il est tendance puisqu'on a la période de
ouais.
Pâques,
oui,
chocolat.
Oui, c'est vrai, c'est
hein,
vrai.
On est
oui,
plein dedans.
Très bien.
Alors bonsoir à tous. Donc ce soir, hein, nous sommes le mardi 5 avril. Alors voici le dicton du jour. À la Sainte-Irène, s'il fait beau, il y aura moins de vin que d'eau.
Okay.
Voilà, je vous laisse y réfléchir. Enfin voilà, donc ce soir, je vous propose effectivement de retrouver notre petit jeu favori. Et ce soir, vous allez devoir retrouver à l'aide d'indices musicaux des expressions françaises. Et ensuite, on essaiera de les décrypter ensemble. Alors, je vous propose...
Alors, donc, c'est, en fait, c'est des extraits, c'est ça ?
Des extraits musicaux.
Et alors, suivant le titre, suivant
eh bien,
ce que disent les
extraits,
gens...
Vous allez avoir des petits indices, et du coup, vous allez essayer de retrouver, grâce à ces indices, quelle expression française a retenu mon attention.
D'accord. Expression française.
Voilà.
Bon, c'est pas gagné, hein. On y va ? On écoute ? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, en bas de votre radio, un indice. On écoute le premier.
Le So-So Show.
Tu sais bien que j'ai confiance. C'est drôle comme tu es rouge, bizarre comme tu as la bougeotte.
C'est à force de côtoyer toutes ces langues de vipères.
Assiste à l'opération de la girafe. La voilà qui se retrouve le coup d'un agrafe.
Sasier, les girafes du bord de mer.
J'ai rien eu.
Le So-So Show.
Alors là,
moi je suis perdu.
Si vous trouvez.
Moi aussi je suis perdu.
Si vous trouvez.
Alors écoutez, je suis désolée. Soit je me suis trompée sur mes indices musicaux, mais effectivement, moi non plus, je n'ai rien compris du tout.
Ça commence très fort. Un retour en fanfare.
Est-ce que ça a un rapport avec des animaux ?
Avec la girafe, oui.
Oui, alors ça c'est bon.
Alors, girafe. Alors il faut trouver une expression avec
girafe.
Une expression avec une girafe.
Voilà, c'est ça. Non, 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 c'est, alors, ben, je ne sais pas
avec
ce
qu'elle
fait là.
Un long coup.
Un long coup.
Voilà, c'est ça. Expression française.
Oh, vraiment, je suis désolée. Moi-même, je regardais, j'étais, ben, je ne vois pas du tout de quoi je parle. Je ne reconnais pas mes indices musicaux.
Une expression avec la girafe.
Avec il y a eu un bug.
Il y a un truc avec un cou.
Il y a le cou, mais surtout, qu'est-ce qu'elle a, la girafe?
Elle a un long cou. Elle a.
Oui, qu'est-ce qu'on fait sur la crinière?
On
la brosse.
La brosse.
On la
peigne.
Coiffe.
Peigne. On peigne le cou de la girafe.
Tu peux te brosser, Martine.
Ça ne vous dit rien. Peigner la girafe.
Peigner la girafe.
Alors
non.
Déjà, on ne connaissait pas l'expression. Alors...
Peigner
peu
la
importe
girafe.
Les extraits, en fait. Hein.
Tu pouvais mettre... Vitre, la
girafe. Tu pouvais mettre ce que tu voulais.
C'est bon, ça. Oh, écoutez, je suis
qui
désolée.
Connaissait
Non, non, la
girafe. Sonia est la seule.
C'est quoi l'expression d'antique?
Vas-y, dis.
Peigner la girafe.
Peigner la girafe.
Alors, ça tombe bien que vous ne connaissiez pas cette expression. Je vais tout vous apprendre ce soir, les amis. Qui dit peigner la girafe signifie ne rien faire ou faire un travail inutile et fastidieux.
Ouais, d'accord.
Alors, oui. Peigner le long cou d'un animal peut paraître en effet longuet et sans grand intérêt. Alors cependant, deux hypothèses s'affrontent sur l'origine exacte de cette image.
Hypothèse.
Alors, la première hypothèse fait naître l'expression avant l'arrivée de la girafe Zarafa en France en 1826, quand même. Je suis surprise que vous ne connaissiez pas cette expression. Jusqu'alors inconnue des Français, oui, on ne connaissait pas les girafes encore à cette époque. Cet animal soulève la passion du public au cours de son voyage de Marseille à Paris, où ensuite elle s'installe au Jardin des Plantes. Et donc, semble-t-il, une anecdote ajoute qu'un gardien du jardin se serait servi de l'excuse qu'il peignait la girafe devant les remontrances de ses supérieurs qui lui reprochaient de ne rien faire.
Ah, et donc ça l'occupe
première
beaucoup
hypothèse.
Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
C'est l'excuse, quoi.
Ouais. Voilà, c'est ça. La seconde hypothèse, cette expression évoquerait plutôt, à mots couverts, la masturbation avec l'idée, comme avec branler, que cette pratique équivaut à ne rien faire.
Peigner la
rien
girafe.
À branler.
Vous avez l'image?
Peigner
la girafe.
Qu'est-ce qui s'est passé sur le sol?
Se peigner la girafe.
Se peigner la girafe. On a l'expression.
Et donc, peigner la girafe.
Pour ceux qui en ont une très grande, hein, par contre. Hein, parce que...
Écoute, hein, voilà, chacun est comme il est. Et donc, peigner la girafe figure quand même dans un dictionnaire argotique qui a été publié en 1896. Aussi, l'explication la plus plausible serait une allusion à la masturbation. Et d'ailleurs, l'animal choisi, à savoir la girafe, dont le cou est assimilé à un sexe en érection.
Okay.
Alors, chacun choisit sa proposition.
Okay.
Je trouvais la première plus mignonne.
Bah oui, c'est oui.
Voilà.
On va peut-être passer au suivant.
On passe au suivant en espérant que les indices nous convaincront plus.
Le so-so show.
Je ne peux pas oublier ton cul. Je ne peux pas oublier ton cul.
Dans le cul, dans le cul.
Dans le cul, dans le cul.
Tes pattes, oui, mais tes panzanis.
Bien, bien, bien. Papa des mamouilles, on baisse en aguantant. Papa des mamouilles, on baisse en aguantant.
Bon, là, c'est pas ça.
Oui, c'est... Ouais, ouais, j'ai une idée. Qu'est-ce qui a une idée?
Oui.
Non
si, si.
Ah, vas-y.
Si, mais je sais plus.
Il y a pas de...
Si, je sais. Oui, alors, le cul bordé de nouilles, c'est pas ça?
Ah oui, bravo, ça.
Le cul bordé de nouilles.
Bravo, Mathias.
Bravo.
Bon, je pensais que vous trouveriez plus facilement. Alors, il va falloir que je revoie, peut-être...
Ah, mais si, là, on l'a trouvé.
Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, oui, mais je pensais plus facilement.
Pas la majorité, ouais.
Avec trois... Bon, en tout cas, effectivement, avoir le cul bordé de nouilles signifie...
Avoir de la chance.
Avoir de la chance, avoir du bol, avoir du fion, ok.
Ah ouais.
Alors, d'une finesse absolue, cette expression a une origine incertaine, car si le lien entre le cul et la chance est commun de nos jours, que viennent donc faire les nouilles dans cette galère? Et pourquoi borde-t-elle, me diriez-vous?
C'est vrai.
C'est vrai.
Bonne question.
Alors, étymologiquement, pardon, les mots bol et peau signifient en argot, semble-t-il, anus. Au sens figuré, il désigne la chance, d'où l'expression avoir du bol ou les variantes, hein, ce qu'on a pu dire auparavant. Donc maintenant, essayons de comprendre le sens des nouilles bordées. Donc les nouilles sont des pattes de 5 cm de longueur environ, en forme de tire-bouchon. Mais à quoi ça sert d'en avoir le cul bordé?
Oui.
Toujours cette question.
Toujours.
J'essayerai ce soir.
Alors, parmi les explications, et là c'est pareil, ça reste encore un peu flou, mais on peut avancer quelques explications. La plus convaincante, autrefois, les mères et nourrices accrochaient des médailles bénies au linge des bébés. Cela était supposé leur porter chance. D'où l'expression équivalente, avoir le cul bordé de médailles. Toujours en usage, mais moi je ne connaissais pas cette expression. Comme ce n'était pas très respectueux de la religion chrétienne, certains ont remplacé les médailles par des nouilles. Voici donc avoir le cul bordé de nouilles. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre qui ne m'a pas convaincue beaucoup plus, le lien Mince. C'est qu'effectivement, il y aurait eu un à Marseille. Hein, donc, du coup, on dit un peu avoir être de Marseille, un peu comment dire, exagérer les choses. Donc, un Marseillais aurait dit, en rapport avec l'Italie toute proche, ben voilà, il a du cul bordé de nouilles.
Oh là là, hein, c'est voilà, capillotracté.
C'est capillotracté,
hein,
ouais. Tout à fait. Alors, on retrouve pour autant cette expression un petit peu en portugais, tel. Alors.
Vas-y.
Excusez-moi mon accent. Ter o cu virado pra lua, avoir le cul tourné vers la lune, ou bien l'expression italienne avere un culo della Madonna,
oui, bien
avoir
sûr, oui,
un cul de la Madone, et l'expression espagnole tener una flor en el culo, avoir une fleur au cul. Comme quoi, finalement, cette expression.
Le cul est voilà, partout.
Quand pour même. Autant.
Il n'y a que les Français qui ont les nouilles. Hein.
Qu'avant les nouilles, oui, on a les nouilles, je ne sais pas pourquoi. On peigne les girafes déjà, alors tu
c'est
sais.
Ça.
On est là. Bon, allez, on s'en fait un petit dernier
allez,
rapide.
Allez, un petit dernier rapide.
Le so-so show.
Je reste assis, j'admire le show. Enlève tes habits s'il fait trop chaud.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
Savoureux, c'est le show, c'est au moins.
Amen.
Show, c'est au moins.
Pas le so-so show.
Il y avait même la réponse sur le dernier.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Alors on y alors, va.
Vas-y.
L'habit ne fait pas le moine signifie, hein, méfions-nous des apparences, il faut s'abstenir de ne juger les gens qu'à leur apparence. Alors, l'une des explications les plus plausibles, hein, c'est qu'au XIIIe siècle, le pape Grégoire IX cite Saint Jérôme dans une lettre. Ce n'est pas à l'habit qu'on reconnaît le moine, mais à l'observation de la règle et à la perfection de sa vie. Il faut ainsi faire la distinction entre l'être et le paraître. Donc, ce qui renvoie au fait que les moines à l'époque, eh bien, hein, ils étaient bien loin de suivre leurs préceptes, n'hésitant pas à accumuler des biens, à ripailler, à courir les filles ou à trucider à tout va dans les batailles. Et donc, ils avaient un comportement qui était très éloigné de celui que leur tenue aurait pu laisser supposer, d'où l'habit ne fait pas le moine.
Ok, très bien. Ah bah c'est un très bon... Moi, j'aime bien.
Oui,
hein, bien. Moi, j'aime bien ce show.
C'est très
printanier.
Voilà, c'était un plaisir de retrouver ce jeu avec toi. J'en profite pour dire
bravo,
que tu animeras la grande émission Radiovision le 11 juin prochain et qu'il est toujours possible de vous inscrire pour ce grand jeu concours de chansons. Il suffit de vous rendre sur le site radiovision.fr.
Attendez.
Kreis Andiguaden et Tans Arfulen.
Alors, eh bien, il est temps maintenant de découvrir le sommaire de la deuxième partie de CMA. Dans le JO, journal officiel, il y a un article qui précise qu'on doit avoir une chronique de Florian. C'est la loi. Quand je vous dis que c'est sport pour reprogrammer l'émission. Bonsoir Florian, de quoi tu nous parles ?
Bonsoir, eh ben, je vous parle des Jeux Olympiques. Voilà, j'ai pas fait de petite...
De lancement, c'est juste ça, tu poses ça là et on voit ça.
Tout okay. à fait.
On a eu la présentation des 5 premiers chroniqueurs. Voici le Cisco. Bonsoir.
Salut.
On voit loin ce soir.
Je vais vous parler des problèmes qu'ont rencontrés les hommes et les solutions techniques qu'ils ont trouvées pour observer toujours plus loin dans le ciel.
Bien, tout un programme. On va soigner la fin de l'émission et pas avec des molécules artificielles. C'est naturel et puissant, tout le contraire de lui. Bonsoir Titouan, c'était gratuit. On parle de quoi ce soir ?
Bonsoir, on va parler des médicaments et des plantes qu'on trouve dedans.
Ah oui, ok. Et bien sûr un Graal qui répond ce soir à Thierry de Beaufort-en-Vallée qui nous demande d'où vient la danse du Sirtaki. La réponse est pour le moins étonnante, vous verrez. Vous êtes dans CMA sur Radio G, voici les chroniques de la deuxième partie de l'émission. Demain, le 6 avril, c'est la journée internationale du sport au service de la paix. Une journée qui résonne particulièrement cette année. Comme un film d'anneau qui passe la flamme, voici la chronique de Florian.
Les Jeux Olympiques, c'est le bonheur de participer. Les Jeux Olympiques, sois le meilleur si tu veux gagner.
Il y a du niveau dans les jingles.
Ça date de quand ça ?
Je ne sais pas.
D'accord.
Ça donne envie.
Alors, les...
Eh bien, merci, Florian.
Voilà, ce fut un plaisir.
Ce fut un plaisir. L'important, c'est de participer, Florian. Hein ?
Les Jeux Olympiques.
Voilà.
Bon, je vais commencer par un petit tour d'historique et puis après, je vous poserai des questions. C'est plutôt une chronique sous forme de quiz.
Oui.
Ah. Hein, parce que le temps m'a manqué considérablement.
Vas-y. Voilà. Tant mieux, parce que moi, c'est l'inverse. Pas question, il n'y a rien, moi, c'est du bout en blanc.
Très bien. Alors, je pense que vous le savez, mais les Jeux Olympiques viennent d'Athènes.
Oui.
Puisqu'ils avaient cours dans la Grèce antique. Et en fait, ils se tenaient à Olympie du 8e au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le baron Pierre de Coubertin qui les ressuscite en 1894. Alors, pour favoriser les interactions culturelles entre les pays et promouvoir les valeurs, blablabla,
c'est important.
C'est important, effectivement. Et de toute façon, c'est un courant très important au 19e siècle. L'éducation, le sport, tout ça. Voilà. Et les premiers Jeux Olympiques modernes, puisque c'est comme ça que ça s'appelle officiellement, les JO modernes, ont lieu à Athènes, petit clin d'œil quand même à l'histoire, en 1896. Donc là, c'est que les JO qu'on appellerait aujourd'hui d'été. Ça commence que par les JO d'été. Puis viennent les JO d'hiver, en 1924, et les premiers JO d'hiver ont lieu à Chamonix.
Voilà. D'accord. Et dès les premiers, donc, étaient à Athènes, mais ça changeait de pays ou c'était
tous les 4 ans, ça changeait de pays tous les 4 ans.
Depuis le début, ça change de pays.
Oui.
D'accord.
Depuis le début des JO modernes, ça a toujours changé de pays tous les 4 ans. Et donc là, la temporalité a toujours été tous les 4 ans.
D'accord.
Par contre, au début, il n'y avait que des sportifs amateurs qui pouvaient concourir aux Jeux Olympiques.
Pas de pros,
seulement à partir de 81. 1981, que les professionnels ont été acceptés.
Ça devait être spé quand même, ça devait être un peu chiant
participer.
Quand même.
Ouais,
mais alors... c'est ouvert à tous, c'est l'idée de base.
Ouais, enfin, remarquez, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça.
Non.
Donc voilà, ils s'amusaient entre eux.
Effectivement.
Voilà. Mais regardez, voilà, le marathon en 5 jours, ça fait quand même beaucoup.
Non, mais... voilà, pour le tour un petit peu des JO. Alors, avant 1896, déjà en France, il y avait déjà eu des... Jeux Olympiques, alors ça s'appelait pas comme ça.
Interville ?
Mais non.
Je sais pas, non.
C'est aussi vieux que ça en plus. C'est fort probable.
C'est ça, je pense, ouais.
Ça s'appelait les Olympiades de la République.
Ouais, on y ressemble.
Ah, tiens, forcément.
Et c'était en 1796, donc un siècle plus tôt.
D'accord.
Et ça se passait sur le champ de Mars. Donc en 2024, on aura aussi des JO probablement sur le champ de Mars. Voilà, et en fait, c'est parce qu'on redécouvre le site d'Olympie, en fait, au 18e siècle. Et donc ça donne envie aux gens de refaire les grands jeux, tout ça.
Donc
c'est pour ça qu'on a ça après la Révolution. Est-ce que vous savez combien, sans transition, est-ce que vous savez combien il y a de disciplines aux Jeux Olympiques ? Alors on va commencer par les JO d'été.
42.
Alors je vous demande les disciplines et pas le nombre de sports.
Ok, je passe mon tour.
Ah oui, donc oui. Oui, je ne sais pas, une trentaine, toi, tu sais.
Ah non, discipline. Bah,
une trentaine.
De disciplines. Donc, par sport, il y a plein de disciplines différentes par sport.
Ouais.
Ah bah oui.
Par exemple.
Ah oui.
Ah oui, d'accord, le fleuret, le machin. D'accord. D'accord.
Oui.
Ah oui, donc ça, oui, ça peut monter à beaucoup, ouais.
Bon. Je dirais 100, moi.
Allez.
Alors, pour les JO d'été en 2020, enfin ouais. 2021, il y en avait 321.
Ah oui, presque. D'accord.
Presque.
Avec 47 sports différents.
Ah oui, bah voilà, j'étais pas loin.
J'étais pas loin.
Au moins un bon chiffre.
Tire à la carabine, tire à la carabine d'un œil, tire à la carabine de deux yeux, tire à la carabine de la
de gauche,
de
à la main,
avec...
avec les pieds.
Avec parfois des disciplines assez saugrenues, des choses qu'on connaît pas forcément ouais. tout le temps.
Bah
mais
c'est bien, ça nous fait découvrir.
Mais elles sont présentes aux JO. Ça nous fait découvrir pas mal de choses. Aux JO d'hiver, il y a combien de disciplines?
Bah peut-être un petit peu moins quand même. Parce que
alors il y en a quand même moins.
Une piste, ouais, oui. En théorie.
Il y en a moins.
Mais alors une centaine?
Alors effectivement, il y a une centaine de disciplines, il y a 109 disciplines,
okay.
Et donc il y a 15 sports avec 109 disciplines.
D'accord.
Voilà, est-ce que vous savez
non.
quel sport, bah non, vous savez pas encore, quel sport...
On sent que tu vas nous le dire, je suis pas ouais. sûr.
...a été supprimé en 2020.
La pendaison.
Il a toujours eu lieu depuis le début des JO.
À 2020 ?
Et non. En 2020, et au dernier JO là, au dernier JO d'été.
Non, d'été.
Il y a le karaté qui va s'arrêter, je crois.
C'est il quand a même pas l'apéro, non c'est possible.
Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu, y a
y a pas eu
de
ça
Non.
Non, je ne sais pas.
Eh bien, je vais vous le dire, c'est le rugby à 15.
Ah oui.
Il n'y a pas eu de rugby à 15.
D'accord.
Au JO 2020, mais par contre, il y a eu du rugby à 7.
Ah oui, voilà.
Ah ouais, voilà, d'accord.
Et alors, c'est un peu surprenant parce que le rugby à 15, c'est quand même le sport de Pierre de Coubertin. Il faisait du rugby.
Qu'on embrasse.
D'accord.
Tout à fait.
Mais ils en font toujours, mais il y a moins de monde. Quoi.
Mais il n'est pas là.
Ah, bah le rugby à 15, c'est un sport coup, qui existe.
Oui, mais
sauf que JO, c'est
fini. À 7, ça existait encore à 7.
Oui, ça existe à 7.
Voilà.
Bah, c'est mon drôle à 7.
La ville de 7 ou à 3
oh, le carreau. C'est un jeu de mots, ça. Attention.
Ah, oh, merde.
Voilà, voilà.
J'étais pas prêt.
Ouais, okay. Est-ce que vous savez quelles récompenses ont. Bah non, vous savez toujours pas.
Bah non.
Quelles récompenses ont les. Les gagnants. Et les gagnants.
Des œufs.
Au JO.
Des œufs de
aujourd'hui.
Alors je vous passe les récompenses financières. Hein, où ouais. chaque,
bah,
chaque,
ils ont les médailles.
Chaque pays
ils
peut.
Ont un ours, une médaille, un peu
oui,
une fleur.
Oui, les médailles. Mais quelle couleur de médaille?
Eh bien.
Bah, or, argent, bronze et bronze.
Oui.
D'accord.
Mais chocolat.
Mais ça, ce n'est que depuis 1904.
Ah,
on a d'accord. l'or, l'argent et le bronze en troisième.
C'était pas mais, des fleurs
mais
avant.
Ils avaient une couronne sur la tête.
Ouais, des lauriers.
Des lauriers, voilà.
D'olivier ou des couronnes de laurier.
Ah ouais.
Oui, mais ils avaient quand même des médailles en métal.
D'accord.
D'autres. Et donc en 1896, donc les premiers JO modernes, le premier avait une médaille d'argent et le deuxième avait une médaille de cuivre.
Ah, oui.
Ah ouais, c'était rare.
Ah oui, oui.
Bah c'est comme ça.
Ah ouais.
Oh, mais à l'époque,
et voilà.
C'était quand même cool.
Sympa, quand même.
Et encore aujourd'hui, les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e reçoivent un diplôme olympique. Ils n'ont pas de médaille, mais ils ont un diplôme, comme quoi ils ont
pas tant. Comme quoi l'essentiel, c'est de participer.
Oui, c'est ça, voilà, bah, voilà. C'était pour ça.
Ouais. Bah oui, je pense que c'est ça.
Toujours sport, bien sûr. Quel sportif est le plus titré de tous les JO
de tous C'est les pas JO. Un nageur
C'est un nageur.
Ouais. Ah, alors Phelps.
Ouais.
Michael Phelps.
Ouais. Phelps. Voilà. Il a eu 28 médailles entre 2004 et 2016 et 23 en or.
Tout ça dans l'eau,
ouais.
On rappelle.
Tout ça
va être lourd. Hein.
Ouais. Non, parfois, il a un peu triché.
Il participe plus du coup.
Ah non, bah non, avec toutes les
médailles, gagner grand chose.
Plus. Hein. Non. Rapidement, on finit.
On finit par quoi? On finit par le défilé des athlètes. Tiens.
Ah ouais.
Est-ce que vous
c'est
savez
C'est long et c'est chiant.
C'est quoi l'ordre? L'ordre des pays.
Alphabétique.
Non, pas que.
Pas que.
Alors c'est par ordre alphabétique.
Par PIB. On commence par la Grèce et on finit par le pays habitant.
Le PIB par habitant.
Voilà. On commence toujours par la Grèce.
Ouais.
C'est la Grèce qui défile. C'est les athlètes grecs qui défilent en premier. Ensuite c'est par ordre alphabétique de l'alphabet
du pays.
Enfin des noms.
C'est
de
pour
pays.
Ça qu'à Pékin c'était complètement différent des.
Voilà.
Des autres,
et c'est le pays qui accueille qui termine.
Ah ben je savais.
Le défilé. Eh ben c'est bien.
Incroyable.
Ça va les filles.
Bravo.
Ben ouais, je savais. Merci Florian.
Bon,
allez, soyez prêts à aller dans l'espace. Et si vous avez mal, on saura aussi vous soigner. Hein. Mais avant, le Graal danse le Sirtaki avec vous.
Question de Thierry de Beaufort en Valais. D'où vient la danse du Sirtaki?
Certains pourraient répondre grec, mais ce n'est pas si simple. En piste. Alors oui, le sirtaki est une danse traditionnelle grecque, mais je suis sûr que vous ne l'avez jamais vu dans sa vraie version. Ce qu'on pratique aujourd'hui en Grèce ou ailleurs, comme la danse du sirtaki, est une invention pour le cinéma, pour le film Zorba le Grec en 1964. Devenue plus populaire que l'original, elle est restée dans la mémoire collective comme la danse officielle du sirtaki. Mais pourquoi inventer une danse qui existait déjà ? Eh bien, l'acteur principal du film Zorba le Grec, Anthony Quinn, s'est foulé la cheville lors du tournage. Il ne pouvait plus faire les sauts de la chorégraphie originale. Le jour de la scène de danse, on a donc changé les pas en urgence. Résultat, on a réinventé une tradition qui perdure encore aujourd'hui.
C'était Le Graal à retrouver dans Question Graal sur Instagram, Facebook, mais aussi dans l'émission Topette à 19h sur Radio G du lundi au jeudi. On poursuit CMA en prenant un peu de recul sur nos vies et même sur notre planète. Comme il boit peu, il a la tête dans les étoiles, à défaut d'ailleurs. Voici la chronique de Cisco.
Je n'en peux plus de t'aimer. Je te regarde comme un enfant avec un télescope.
Attends, super.
Ah ouais, j'ai eu du mal à trouver une chanson avec télescope.
Oui, j'imagine. Et tu as trouvé, c'est bien ça le problème. Alors, les télescopes. Nous, les humains, nous avons d'abord observé le ciel avec ce que la nature nous a donné, à savoir des yeux, nous permettant durant des siècles d'observer les étoiles et de comprendre certains phénomènes, comme les éclipses solaires et lunaires. Mais nos yeux n'étant pas pourvus de zoom optique, nous avons dû mettre au point des instruments nous permettant d'observer toujours plus loin. Et par exemple, de viser la Lune, comme on avait fait dans la dernière chronique.
Comme un Bel-Ben. Comme Bel-Ben, toi.
Ah, voilà, tout à fait. Merci, les gars. La première invention est attribuée à l'opticien hollandais, alors attention, accent incroyable, Hans Lippershey, en 1608, qui a développé une longue vue permettant de mieux voir, enfin, plutôt permettant de voir des objets qui étaient éloignés. L'année suivante, Galilée, qui est un petit peu plus connu que lui quand même, prend connaissance de cette invention et entreprend de l'améliorer en ajoutant d'autres lentilles afin d'observer les étoiles. Il crée donc la première lunette astronomique.
Ah, c'est lui, d'accord.
C'est lui, c'est Galilée.
Sous lentilles.
Il est connu. La précision de son instrument, qui grossit jusqu'à 30 fois les objets qu'elle observe, lui permettra...
Ah, ça peut être utile pour toi. Hein.
Super.
Et pour les girafes.
Pour les girafes, ouais.
Voilà, pour les girafes. On retourne aux girafes. Donc cet instrument qui grossit jusqu'à 30 fois lui permettra d'étudier en détail le ciel et plus particulièrement notre lune. En 1600, voilà. Allez, sortez les rames, c'est parti pour la suite. En 1671, c'est Isaac Newton que vous connaissez tous, hein, grâce à la pomme évidemment, que l'on bascule réellement de la lunette astronomique vers le télescope, puisqu'il rajoute des choses un petit peu plus conséquentes que des lentilles. En effet, le problème de la lunette astronomique est que la lumière passe par une lentille. Pour augmenter le grossissement, il faut augmenter l'épaisseur de la lentille, ce qui implique une absorption d'une partie de la lumière par le verre venant amoindrir considérablement la précision de l'image.
Ok.
Bref.
Donc il met quoi ?
Bah, plus la lentille est grosse, plus c'est flou. Ça, c'est en bref. Donc Newton va remplacer la lentille par un miroir concave. Mmh. Voilà, je vous réfère à ma toute première chronique sur les appareils photo.
Ok.
Grâce à cette nouveauté, on ne grossit plus l'image, mais on la rend plus nette, donc on voit mieux, ce qui facilite les observations. L'invention du réflecteur est ce qui a permis de construire des télescopes de plus en plus grands et précis. D'ailleurs, la plupart des télescopes actuels sont toujours basés sur cette technique vieille de 4 siècles. Mmh. On utilise encore. En 1781, l'astronome William Herschel, aussi connu pour ses compositions musicales, mais grand passionné d'astronomie, fait une découverte grâce à un télescope installé dans son jardin qui marquera son nom à jamais dans l'histoire de l'astronomie, en découvrant une planète. À votre avis, c'est laquelle ?
De loin, alors Pluton, machin, ou Neptune, enfin...
Pluton, les passions.
Saturne.
Encore plus loin ?
Saturne.
Uranus.
Uranus.
Ouais. Uranus. Il l'a observé directement, du coup, grâce à son télescope. Dans l'euphorie...
C'est dans le thème, hein, toujours, oui, effectivement.
Oui, bah oui, toujours. Dans l'euphorie, William Herschel décide de faire construire un nouveau télescope, encore dans son jardin, je vous laisse imaginer la taille de la demeure, bien plus gros, toujours dans le but d'observer encore plus loin. Voilà, je vois des sourires sur les visages. Le miroir de cet instrument mesurant 1,22 mètre de diamètre et son tube 12 mètres de long.
Voilà. Ah oui,
bah oui,
c'est pas petit
sacré
joueur,
tube.
Ah oui, là, oui, oui.
Et permettant de grossir 227 fois les objets observés.
Ouf,
ça commence à faire. Ce qui sera pendant 50 ans le télescope le plus gros du monde. Du coup, impossible de ne pas citer le Titan qui détrônera ce télescope d'Herschel, le Léviathan de Parkshontown. Voilà, très sobre comme nom.
Ouais.
Conçu par l'Irlandais William Parkshon, il devient dans les années 1860 le plus gros télescope du monde. Bien plus massif que celui d'Herschel, il est surtout plus performant. Même chose qu'avec Newton, avec cette innovation, on ne voit pas plus loin, mais on voit beaucoup mieux. Voilà.
Au début du XXe siècle, le nouveau défi pour l'astronomie mondiale, continuer d'observer les étoiles avec un éclairage des villes de plus en plus encombrant. Mmh. Voilà, merci l'électricité. On décide de mettre les télescopes en altitude pour ne pas être gênés par la pollution lumineuse. C'est ainsi qu'en 1908, George Ellery Hale fait construire sur les hauteurs de Los Angeles l'observatoire du mont Wilson. Son télescope mesurait alors 1,5 mètre de diamètre, ce qui en fut, à cette époque-là encore une fois, le plus grand du monde. Mais vous commencez à le comprendre, tous ces records en termes de dimension ne tiennent jamais très longtemps. George Ellery Hale décide quelques années plus tard de construire le même, mais de l'améliorer. Il s'associe en 1917 à John D. Hooker pour la réalisation d'un télescope de 2,5 mètres de diamètre. Et c'est grâce à ce télescope que le célèbre astronome Edwin Hubble, je pense que c'est un nom que vous connaissez, va à travers des observations découvrir les phénomènes des premières galaxies et d'établir que l'univers est en expansion et qu'il y a donc une origine de tout, un Big Bang. Voilà, juste ça le gars. Mais au fil des années, les astronomes sont confrontés à un défaut auquel aucun télescope classique ne peut échapper, l'atmosphère terrestre. Oui, cet élément si essentiel à la vie sur Terre est un cauchemar pour les astronomes, car cela déforme en partie l'image. Grâce à la conquête spatiale des années 50, envoyer le télescope dans l'espace est alors apparu comme une solution évidente. C'est justement le principe des nouveaux types d'instruments qui va naître à la fin du XXe siècle, le télescope spatial. Le premier s'avère être aussi le plus connu, le télescope spatial
Hubble.
Hubble, voilà, forcément. Parfait, tout à fait. Après 20 ans d'études et de construction, il est lancé et mis en orbite en... Est-ce que vous avez la date ?
Oula, 86 ?
Pas loin, 1990. Grâce au télescope Hubble, les astronomes contemporains ont pu observer les étoiles présentes dans d'autres galaxies et étudier les trous noirs. Mais surtout, ce télescope a permis de prendre une photo de l'univers avec une précision incomparable, avec notamment ce cliché pris en 1995, mon année de naissance, qui est pour moi la plus belle photo qui m'a été donnée de voir.
Ça va. Ouais, ça va, on s'en va, ouais, super. Hein, je suis content. Hein.
Parce que voilà, c'est lié forcément. Ouais. Cette photo, c'est le champ profond de Hubble. C'est le jour où j'ai découvert cette photo, qui est d'ailleurs sur la coque de mon téléphone, que ma passion pour l'astronomie a commencé. En 2000, les astronomes font face à une nouvelle barrière dans l'observation de l'univers. La lumière de l'univers n'est perceptible que dans la gamme des infrarouges. Hubble et les autres télescopes spatiaux n'étant pas équipés d'outils capables d'offrir une vision d'un tel spectre de couleurs, il faut encore innover. C'est pour cela qu'on fabrique le James Webb, le télescope qu'on a mis en orbite le 25 décembre. Le JSWST, pour les intimes, est 100 fois plus puissant que Hubble et pourra notamment observer l'atmosphère des exoplanètes, donc les planètes qui sont en dehors de notre galaxie. Au fil des siècles, c'est donc grâce à tous ces hommes et toutes ces femmes, parce qu'il y en a eu évidemment, que toutes ces innovations ont permis d'avoir aujourd'hui un télescope à la pointe de la technologie terrestre. Et grâce à eux donc que nous sommes peut-être à quelques années ou quelques décennies tout au plus de découvrir une autre forme de vie dans l'univers.
Mm-hmm. Si on est encore vivant d'ici là.
On l'espère.
Merci Cisco. Allez, on retrouve tes vidéos sur YouTube, bien sûr, Instagram et Facebook. Alors c'est bientôt la fin de l'émission et vous avez peut-être déjà la migraine. Eh bien ça ne va pas s'arranger car il est l'effervescence même. Avec lui, on va tout apprendre sur les origines de médicaments. Il a trouvé le bon fillon sans avoir la pharmacopée pour se soigner. Voici la chronique de Titouan.
Merci beaucoup Bruno.
Heureusement qu'on parle pas pendant les jingles.
C'est ça. Ouais.
Du coup, ce soir, on va parler de médicaments et de plantes. Vous connaissez tous le Doliprane, l'Efferalgan ou le Dafalgan. Ce sont les médicaments les plus prescrits au monde. Et vous connaissez tous aussi la molécule active de ces médicaments.
Paracétamol.
Tout à fait. Bien vu. L'aveugle ou pas, du coup. On peut se poser la question, d'où viennent ces médicaments antidouleurs qu'on appelle des antipyrétiques? En fait, ils sont utilisés depuis l'Antiquité. Avant, ils étaient extraits de l'écorce du sol. Le sol pleureur, l'arbre qui vit
dans les... Tu veux dire qu'à l'Antiquité, on avait déjà du paracétamol? C'était bien, ça?
Bah, t'y étais, Bruno, tu dois le savoir.
Ah oui, c'est ça, voilà. Oui.
Mais justement, oui. C'est la même catégorie de médicaments. C'est... D'accord. Aujourd'hui, c'est pas la même molécule parce qu'elle est synthétisée en labo, mais...
Mais c'était le même principe, voilà, on avait déjà découvert
ça. Le même principe actif.
Ah oui, c'est pas tout neuf, oui.
Donc, non, c'est plutôt vieux au final, un peu comme Bruno.
Allez, c'était gratuit.
C'est... Ouais. Bref, ça s'appelait du salicylate, c'était pas exactement du coup la même molécule, mais même principe actif. Et du coup, c'est plus connu sous le nom d'aspirine, tout à fait.
L'acide, l'acide.
L'aspirine, elle est donc un dérivé de cette fameuse écorce. Elle a d'abord été utilisée par les Égyptiens, puis par les Grecs, pour être finalement commercialisée la première fois en 1899, sous le nom qu'on connaît bien, d'aspirine. Aujourd'hui, ces molécules sont synthétisées en laboratoire. Voilà, okay. Pour la petite précision.
Mais ça vient de la nature au départ.
À l'origine de l'arbre, du sol. D'ailleurs, le space-fond, qu'on utilise vachement souvent aujourd'hui, je crois, en tout cas, moi, c'est mon cas, et aussi en partie de d'écorce d'arbres, etc. Bref, voilà. Sinon, vous connaissez probablement aussi la pénicilline, le premier antibiotique qu'on a découvert.
C'était du hasard.
Pour pas tellement, en pas fait. Tellement on va voir que c'était pas tellement du hasard. Parce que lui, il provient donc d'une moisissure, c'est-à-dire d'un champignon. Et d'après de récentes découvertes, il aurait été utilisé il y a plus de 40 000 ans par les Néandertaliens pour se soigner. Donc ils avaient compris. Ouais, d'ailleurs, ça a été retrouvé sur leur dentition parce qu'apparemment, ils se la frottaient pour limiter les inflammations.
Quelle bonne idée.
Pour prendre un bout de moisissure bizarre et puis, oh super, enfin, je sais pas.
Ouais, au point, ils en étaient de la laine, c'est pas grave. Hein, un peu
plus, c'est vrai qu'au final, ça pouvait qu'aider.
C'est un ensemble, quoi.
Et sinon, vous connaissez aussi le laurier rose, c'est une plante plutôt fleurie que tout le monde a dans son jardin, qui est plutôt odorante. Et elle est à l'origine, en fait, de nombreux traitements pour les problèmes cardio. Comme la tachycardie ou l'arythmétie, mais attention, surtout n'essayez pas de vous soigner avec, elle reste avant tout toxique. Et la légende raconte même que un bout de l'armée de Napoléon, que Bruno a d'ailleurs bien connu, aurait été décimé après avoir embroché de la viande sur les branches de cette même plante. Et encore un produit que vous devriez connaître si vous vous êtes déjà fait opérer, la morphine, ou pour les anesthésies locales, la xylocaïne. Ils font partie de la famille des opiacés, tout comme la lidocaïne pour les maux de gorge. Et ce sont évidemment des dérivés du bon vieil opium, qui était d'abord utilisé comme récréatif par les Sumériens, qui l'appelaient d'ailleurs la plante de joie. Un nom comme un autre. Et les premières utilisations médicales furent en Égypte antique. Du coup, on est en droit de se demander, mais d'où vient donc l'opium ?
Bah oui, c'est une plante aussi alors.
Tout à fait. C'est un coquelicot. En fait, plus exactement, c'est un pavot. C'est botaniquement plus correct.
Ah, les coquelicots qu'il y a dans les champs, les trucs rouges, on peut les sniffer.
Bah, justement, alors on en a en France et on pouvait se demander. Calme-toi, Bruno.
Je vais aller récolter
un peu d'opium. Ah, c'était. Et ben non, parce que la concentration en opium est tellement faible qu'au final, c'est quasiment inutile.
C'est CBD du pauvre, quoi.
Je voyais déjà Bruno courir dans les champs.
Bah non,
sur les sandwichs, c'est bon. Vous pouvez réécouter d'ailleurs la chronique.
Du coup, la teneur en opium des coquelicots qu'on a en France sont très faibles, et le pavot du coup qui est utilisé et cultivé, il s'appelle Papaver somniferum. C'est plutôt logique.
C'est
au
joli.
Final.
Ouais, ça te fait dormir.
Et c'est donc dans la sève de cette plante qu'on retrouve le fameux opium. Et il s'avère que tous les opiacés sont d'origine végétale. Eux, ils ne sont absolument pas synthétisés. On les produit uniquement par l'opium et par le pavot. Plutôt du coup naturel, au final la morphine on valide.
Ok, oui, on valide. Enfin, oui, c'est un produit un peu dangereux quand même. Oh. Et pour terminer.
Bref, et du coup, chose plutôt étonnante, en Inde, là où on produit le plus d'opium, les perroquets, oui, les oiseaux, les rouges, les bleus et un peu verts, consomment ce pavot et finissent même par y devenir accro au point d'attaquer les fermiers qui le cultivent.
Ah oui, d'accord, c'est des drogués.
Pour
les perroquets sont drogués.
Ils les attaquent pour voler l'opium.
D'accord.
Ça fait un peu ça, mais version incohérente.
C'est une imitation de perroquet,
ouais. Début d'AVC, ouais.
Je croyais que c'était le fermier qui se faisait attaquer, moi.
C'est bon, merci.
Par contre, les perroquets bleus, ça s'appelle des haras, pour la petite précision.
Pas forcément.
Mais les chevaux.
Ouais. Merci beaucoup.
Ok. Si. Très bien, merci. C'est bientôt la fin de l'émission et vous avez peut-être... Alors, donc, il est temps de découvrir maintenant qui gagne le CMA+.
Oui. Ah.
Ça vous dit ?
Alors, c'est le résultat.
À chaque émission, les auditeurs votent pour les sujets qui les ont plus intéressés dans CMA. Histoire de bien mettre la pression sur les chroniqueurs, on délivre à chaque fin d'émission donc le CMA+ de l'émission précédente. Justement, il y a 15 jours, nous avons parlé des Oscars, de la saga Petit Bateau, de reprises musicales, de Clé, de Bille et de Mario. Alors autant vous dire que les chroniqueurs essayent de découvrir qui sont les votants pour les influencer, évidemment. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y en a plusieurs. Et cette semaine, pour la première fois, il y a un ex-aequo.
Oh là là,
on n'a pas réussi à les départager.
C'est qui vote du coup ?
Il y a donc deux premières places.
Bah justement, c'est ça le truc, c'est que voilà, ils essaient de savoir.
C'est les auditeurs, alors, les auditrices.
Donc qui a gagné ?
C'est Bruno, quoi.
Les gagnants de cette semaine sont Sandra pour les billes et Caro pour la saga Petit Bateau.
Deux fois de suite,
ouais. Caro. Ouais. En fait, c'est le retour à l'enfance qui marche bien, je pense, parce que voilà, c'était primé ce soir.
C'est bien Bruno qui choisit.
Bravo à vous deux.
Et donc on peut toujours jouer au billes sur un petit bateau.
Ouais, c'est ça aussi.
Donc merci public.
Donc les chroniques seront sur la page podcast plus du site radio-g.fr. C'est la fin de l'émission. Merci à nos chroniqueurs et causes du soir. Merci Sonia. Merci Titouan.
De rien.
Merci Caroline.
Merci.
Merci Florian.
Merci tout le monde.
Merci Cisco.
Merci.
Merci Sandra.
Bisous.
Merci Mathias.
Merci, bonne soirée.
On embrasse bien fort le reste de l'équipe et que vous retrouverez dans les prochaines émissions. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Et d'ici là, n'oubliez pas, on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.
Vous êtes chanteuse, chanteur, seul, en duo ou en groupe, et vous voulez passer à la radio ? Alors bienvenue dans Radiovision.
Ce concours de chant est ouvert à toutes et tous. C'est gratuit. Il vous suffit de vous inscrire sur radiovision.fr.
Si vous êtes sélectionné, votre titre participera à la grande émission Radiovision 2022.
Le public et un jury voteront pour déterminer le titre gagnant lors de la soirée en mode virtuel 2.0.
Bonne chance à toutes et à tous.